questions et réponses. Je vous rappelle encore une fois qu'on a ici avec nous Florence Marshall pour le développement et Sylvestre Ntumba pour l'humanitaire pour répondre à vos questions. Avant que vous posiez des questions aussi, je vous demande d'étendre vos téléphones et de vous présenter avant de les poser. On peut commencer ici à ma droite. Oui, on peut commencer ici. Merci beaucoup.
Je m'appelle Samir Limbou, du journal Explorateur. Je pose ma question au colonel Bass. En écoutant votre rapport, j'ai noté un mot qui se répète, le mot Mai Mai. Hormis la force de M23, le Mai Mai constitue une force non négligeable. Maintenant, la question est celle-ci. Quelles sont les revendications et qui les arme?
Merci pour votre question. Je pense que cette préoccupation avait été posée ici lors de la dernière conférence de presse. Qui arme les Mai Mai? C'est une excellente question, mais une question à laquelle je ne peux pas de manière péremptoire répondre parce que personnellement, je ne sais pas qui arme les Mai Mai, quelles sont les filières de trafic d'armes qui approvisionnent les Mai Mai. Mais effectivement, vous avez raison de poser le problème de l'envergure que prennent un peu les groupes Mai Mai. Comme vous le savez, c'est des populations locales qui ont un modus operandi qui leur est propre, dans la mesure où ils peuvent être aussi bien des fermiers dans la journée et des combattants dans la nuit. Donc ce modus operandi est difficilement saisissable et à ce titre, nous pouvons dire qu'il y a une forte recrudescence des activités des Mai Mai, couplé au M23, couplé au Raja Mutomboki, ce qui vous donne un peu une idée globale de l'insécurité qui est en train d'être observée à travers tous les pays, aussi bien au nord, au sud qu'à l'ouest de la RDC. Mais toujours est-il que la force de la MONUSCO est toujours là présente avec les autres sections substantives pour essayer d'endiguer un peu cette menace qui a trait à la sécurité dans, dans toute la RDC.
On continue ici à droite.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour le compte de Planète Télévision. Monsieur le porte-parole, l'accord est signé devant le secrétaire général des Nations Unies. Mais s'il arrive qu'aujourd'hui, les deux camps ne respectent pas cet accord. Quelle est la réaction de la MONUSCO? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, monsieur le porte-parole militaire. Hier, à Rutshuru, zone occupée par le M23, il y avait des tiraillements entre les M23 eux-mêmes. Quelle était la réaction de la MONUSCO par rapport à cette situation? Merci.
La première question sur l'accord, si un pays ne le respecte pas, quelle est la réaction de la MONUSCO? Il faut d'abord dire que ce n'est pas un accord de la MONUSCO. C'est un accord cadre qui a été signé par 11 pays. C'est un accord différent des accords qui l'ont précédé parce que cette fois-ci, tu as des pays signataires, mais tu as aussi des garants. Il y a 4 garants, à savoir le secrétaire général des Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté de développement de l'Afrique. Ici, à l'intérieur du Congo, les engagements du Congo vont être soutenus par les Nations Unies, par l'Union africaine, par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Il va avoir un envoyé spécial qui sera nommé par le secrétaire général en principe la semaine prochaine, parce que le Conseil de sécurité va se réunir la semaine prochaine, pour discuter un rapport spécial sur ce qu'il faut faire maintenant au Congo. Donc je pense que la semaine prochaine, vous aurez plus de détails sur toute l'évolution de cette situation, de cet accord cadre et de cette brigade d'intervention, que aussi c'est un des éléments importants à tenir en compte.
Merci. Donc je dirais que je ne suis pas dans le secret des dissensions internes au leadership du M23 qui se sont passées hier, mais je sais que des dissensions internes existent. Maintenant, que pense la MONUSCO? La MONUSCO est plutôt concentrée dans l'exécution du mandat qui lui a été imparti par le Conseil de sécurité, qui est de protéger les populations civiles. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur des M23, si c'est pour des questions de pouvoir, des questions d'argent, je ne peux pas épiloguer là-dessus.
Une troisième question ici à droite, avant d'aller à Goma.
Merci, c'est venant vous dire ça pour la RTNC. Monsieur le porte-parole, j'ai une préoccupation à propos de la signature accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération aussi, signé dernièrement à Addis Abeba. L'envoi d'un envoyé spécial, que devient le représentant spécial? Là, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est qu'on a eu, parmi les recommandations à l'endroit de la communauté internationale, une revue stratégique de la MONUSCO afin de renforcer son appui au gouvernement et faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire et favoriser l'expansion de l'autorité de l'État. Comment vous comptez intégrer cela, disons, appliquer cela? Mon colonel, parfois ça sonne désagréable d'entendre qu'il y aura, disons, l'envoi d'une équipe robuste, 2500 personnes, avec peut-être des super-hommes plus robustes, tels que je l'ai dit. Que deviennent les 17 000 hommes? Cela signifie, à notre entendement, que les 17 000 n'ont pas servi à grand-chose et que seuls les 2500 seront capables de renverser la situation. Merci.
Votre première question sur le nouveau envoyé spécial, je crois qu'il n'y aura pas un conflit entre les deux parce que le représentant spécial est le chef de la MONUSCO, représentant du secrétaire général ici au Congo. L'envoyé spécial, c'est quelqu'un qui va s'occuper seulement de l'application et de la monétisation de cet accord cadre. Donc ce sont deux rôles. Je crois qu'il y aura beaucoup de discussions, de dialogues, mais ce sont deux responsabilités différentes. La deuxième question, c'était sur
la signature. La signature des accords du 24 oui. Passé, comment...
Pour l'autorité de l'État.
Voilà, la communauté, ce qui est adressé à la communauté internationale, comment comptez-vous appliquer cela?
Ce n'est pas à la MONUSCO d'appliquer cela. Comme je viens de vous dire, c'est un accord qui a été signé par 11 pays. Donc ce n'est pas un accord de MONUSCO. Ce que je peux vous dire, c'est que cette brigade d'intervention, que c'est un des éléments de cette qui sera créé en principe dans le cadre de cet accord, ça va être discuté la semaine prochaine à New York. Le Conseil de sécurité va parler de ce rapport. Il y a un rapport spécial du secrétaire général et tous les détails sur la composition de cette brigade d'intervention, la chaîne de commandement, les détails plus opérationnels, je crois que seront communiquer après cette réunion. Donc je crois que c'est une question d'attendre encore une semaine avant qu'on commence à spéculer qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Et il faut attendre un petit peu tant qu'on a tous les éléments sur cette brigade d'intervention. Ce que je peux vous dire, c'est ce que le secrétaire général a dit à Addis Abeba. En principe, cette brigade d'intervention sera intégrée à l'intérieur de la MONUSCO, aura une durée initiale de une année, et son objectif principal, c'est de créer un environnement propre à favoriser le rétablissement de l'autorité de l'État. Ça veut dire qu'ils auront un mandat plus robuste, plus solide, pour faire face à toutes les menaces qui peuvent venir de groupes armés. Le secrétaire général est en concertation étroite avec tous les garants de ce processus sur la manière d'opérationnaliser cette brigade.
Oui, merci. Comme l'a si bien dit M. Carlos, je pense qu'il faut prendre son mal en patience, mais toujours est-il que le processus est entamé par la signature de l'accord cadre. Le 24 février à Addis Abeba, donc qui pourra décider de la mise en œuvre de cette brigade d'intervention, comme il l'a dit, qui évidemment aura un mandat plus robuste. Mais ce qu'il faudra clarifier, il ne faudra pas qu'il y ait une confusion. Cette brigade d'intervention qui va être déployée avec un mandat beaucoup plus robuste, comme l'a dit M. Carlos, pour essayer de pacifier et de désarmer tous les groupes qui sont au Nord Kivu, bien entendu, notamment le M23. Cette brigade est une brigade de la MONUSCO. Elle sera intégrée dans la MONUSCO. Elle aura un mandat qui sera tout simplement un peu différent. Vous avez parlé de la revue stratégique de la MONUSCO tout à l'heure dans votre question, lorsque vous posiez votre question. Effectivement, c'est-à-dire que la revue stratégique de la MONUSCO prendra en compte peut-être un réaménagement de son mandat. Mais toujours est-il que l'intégration de cette brigade forcément aura des implications sur le mandat actuel de la MONUSCO qui sera éventuellement réaménagé. Mais comme il l'a dit, attendons pour voir, parce que le processus est en marche et peut-être que d'ici peu nous aurons des informations beaucoup plus fiables, beaucoup plus palpables à mettre à votre disposition.
Merci. On va maintenant à Goma. Une question de Goma.
Vas-y. Oui, merci de la parole. Moi, c'est Cyprien Miburo. Je suis de Azur TV Rutshuru et d'Orika FM Nyamirima à Rutshuru. Depuis le 24 février, la population civile de Rutshuru a été et ou encore frustrée de nouveau à cause de nouveaux combats de leadership au sein de M23. S'il y a débordement sur la population civile, ma question est de savoir si la MONUSCO peut envisager des mesures d'évacuation de la population civile ou quelles autres mesures, par exemple. Merci.
Je pense que nous n'en sommes pas encore à une situation aussi catastrophique du fait justement des dissensions internes au M23. Au point de pouvoir envisager une éventuelle évacuation de toute la population de Rutshuru, qui, à mon avis, n'est pas jouable. Évacuer toute une population de toute une localité, pourquoi spécialement Rutshuru et pourquoi pas les autres, parce que si je crois savoir que la violence est répandue un peu partout, aussi bien au nord Kivu qu'au sud Kivu, pas seulement dans le Rutshuru, il y a d'autres groupes armés qui passent leur temps aussi à se battre et dont les activités ont des répercussions négatives sur les populations civiles, ne serait-ce que par leur déplacement. Donc cette situation n'est pas encore envisagé. Toujours est-il que nous, dans le cadre de Rutshuru que vous avez mentionné, nous continuons à mener les activités qui sont les nôtres en vue de protéger les populations civiles pour ne pas que, du fait de dégâts collatéraux, que ces populations-là puissent être victimes des dissensions internes ou des problèmes de commandement internes au M23.
On prend une deuxième question de Goma.
Oui, merci. Aline Engwe, correspondante Top Congo FM et puis responsable magazine Voix de la Femme. J'ai deux questions. La première s'adresse au porte-parole militaire et la deuxième au responsable humanitaire. Au camp Mugunga, l'insuffisance de la nourriture oblige les femmes déplacées à aller se débrouiller en dehors du camp, ce qui occasionne de nombreux cas d'agression sexuelle. Comment expliquez-vous qu'avec autant d'interventions humanitaires, la nourriture soit toujours insuffisante au camp Mugunga? La deuxième question, à quand la sécurisation de camp Mugunga 1, 2 et 3, comme promis par la MONUSCO il y a de cela 2 semaines? En suivant l'actualité, on constate qu'en plus du territoire sous contrôle du M23, il existe trop de portions de territoire congolais qui échappent au contrôle du pouvoir. En tant que partenaire de l'État congolais, comment la MONUSCO explique-t-elle cette incapacité de la RDC de contrôler tout son territoire malgré votre appui? Merci.
On commence par l'humanitaire.
Oui, concernant précisément cette question, je vais donner la parole à notre collègue Claude Kalinga du PAM, parce que c'est essentiellement le PAM qui s'occupe de l'assistance en vivres au camp de Mugunga 3 avec différents partenaires opérationnels sur le terrain.
Merci de la question. En principe, le PAM devait commencer la distribution des vivres hier dans le camp de Mugunga 3. mais pour des raisons opérationnelles, cette distribution aura lieu tout prochainement, je crois dans les 2-3 jours qui viennent. Donc, mais il y a beaucoup de problèmes dans le camp, il faut chercher des solutions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, il y a qui rentrent. Nous voudrions avoir des listes de personnes qui bénéficient effectivement de ces vivres. C'est la raison pour laquelle nous avons reporté de quelques jours cette distribution qui va devoir, comme je viens de le dire, avoir lieu très très prochainement. Merci.
La deuxième partie de la question, colonel.
C'est la troisième pour moi.
Je crois que la deuxième c'était sur la sécurisation des camps.
Merci. Merci. Donc effectivement, vous avez évoqué tantôt la question de la sécurité des camps de déplacés. Je suis quand même un peu désagréablement surpris de savoir que vous qui êtes à Goma, vous ne savez pas que aussi bien à Mugunga 3, au Lac Vert, à Bulugo, qu'il y avait des unités qui étaient prépositionnées. Nous avons 5 unités qui sont chargées de la sécurité des camps de déplacés. Et à un moment, il avait été même question de pouvoir sécuriser ces femmes qui se déplacent hors du camp pour aller justement chercher du bois ou chercher de la nourriture, parce que nous avions vu qu'elles avaient été victimes déjà dans le passé d'exactions des groupes armés qui elles ont été victimes particulièrement de viols. Donc dans les camps de déplacés qui sont présentement au nord Kivu, nous avons des unités qui sont fixes, mais nous avons aussi des patrouilles mobiles qui circulent autour des camps, qui mènent des patrouilles pour essayer un peu de dissuader toute activité négative des groupes armés sur ces populations de déplacés qui ont besoin d'être sécurisées. Donc, en d'autres termes, nous continuons toujours à sécuriser ces camps parce que nous y sommes, nous avons des unités d'intervention rapide, nous menons aussi des patrouilles dans et autour des camps. Mais si vous vous rappelez, la semaine dernière, le général Wafi de la police avait ici évoqué le déplacement de son adjoint sur Goma dans le but de pouvoir mettre en place une police humanitaire, une police spéciale qui sera chargée de la sécurisation des camps de déplacés, qui sera déployée dans les camps afin de mieux apporter la sécurité aux populations de déplacés qui vivent dans ces camps-là.
Je crois qu'on revient maintenant à Kinshasa. On va ici à ma gauche. On a 2 personnes là, 2 journalistes qui vont... OK. Merci beaucoup.
Merci. Je me nomme Benoît Kambere Lusumba. Je suis du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Vous avez dit de prendre notre mal en patience en ce qui concerne l'accord cadre d'Addis Abeba du 24, n'est-ce pas? Je prendrai mon mal en patience parce que j'avais vraiment une question qui me brûlait les lèvres. Mais seulement, j'ai une question pour le lieutenant-colonel Prosper Félix Bass, n'est-ce pas, concernant les drones. D'après les informations que nous avons, les drones seraient canadiens et survoleraient la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sans armes, semble-t-il, et ne pourraient tirer aucun coup de feu. Comment on peut l'expliquer? Et deuxième question, mon colonel, ces drones, c'est les télécommandés à partir d'où? De la République démocratique du Congo, du Canada ou de Potsdam en Allemagne? J'ai dit.
D'accord. Merci donc pour l'information que vous venez de me passer en disant que c'était une société canadienne qui avait déjà été retenue pour la prestation de services en question. Mais avant de poursuivre, je voudrais tout simplement corriger. Je parlerai plutôt d'aéronef sans pilote au lieu de parler de drone. Et effectivement, ces drones, comme vous le savez, ont une mission de surveillance, de collecte d'informations. Ces aéronefs ont beaucoup de capacités, n'est-ce pas, pour essayer de surveiller la frontière entre la RDC et le Rwanda, mais aussi surveiller tous les mouvements de troupes à travers la zone frontalière. Bon, alors, donc, techniquement, effectivement, les drones, c'est des aéronefs sans pilote. Mais les pilotes sont à terre. Ils sont à terre et ils sont chargés, il y en a un qui est chargé justement de diriger, de piloter à partir du sol ce drone-là, et il y en a un autre qui est chargé de la collecte et du traitement des informations que ces aéronefs vont collecter et les mettre à la disposition du technicien qui est sur place, qui pourra les exploiter, en d'autres termes. Donc, effectivement, nous attendons, c'est toujours dans le projet des Nations Unies, de déployer ces engins-là, qui permettront aux chefs militaires qui sont sur le terrain d'avoir une latitude extrêmement importante, de pouvoir prendre des décisions en temps voulu, parce que le renseignement leur parvient en temps opportun, donc la décision se fait beaucoup plus rapidement, et donc l'exécution de la décision aussi se fera, bien entendu, de manière beaucoup plus rapide.
Si je peux donner des clarifications sur le sujet des drones, comme vous savez que le Conseil de sécurité a approuvé pour une période expérimentale l'utilisation des drones, et en ce moment, après cette approbation, le DPKO, c'est le département des opérations de paix, a initié une procédure d'achat. Et en résultat de cette procédure d'achat, représentant de 25 comment dire, entreprises de 11 pays, entre ces pays, tu vois, l'Afrique du Sud et l'Indonésie, sont en ce moment à la République démocratique du Congo pour familiariser avec le terrain et les opérations. Cette procédure d'achat a été déjà commencé, et aussi pour vous dire qu'il y a déjà, un accord formel du gouvernement du Congo pour l'utilisation de ces drones, et les pays voisins ont déjà été notifiés sur ça. Merci. On prend une autre question là, avant de venir chez nous.
Merci, monsieur le porte-parole. Je m'appelle Honoré Mbenga. Je suis journaliste de l'agence presse associée APA. Ma question s'adresse à monsieur le porte-parole, Carlos. Malgré les questions qui ont été posées autour de l'accord cadre, je voudrais un peu d'éclairage. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu quelques clauses assorties de cet accord signé par 11 pays? Merci.
Je crois que les deux volets les plus importants de cet accord, un, c'est... c'est un compromis de la République démocratique du Congo de faire des réformes dans le secteur de sécurité et dans le secteur aussi, dans la démocratisation du pays. Ça, c'est un volet de l'accord. Le deuxième volet, c'est un engagement des pays voisins de respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ça, ce sont les deux volets les plus importants de cet accord. Et après, il y a des clauses sur les garants, les pays qui ont signé. Mais ce sont les deux volets qu'il faut souligner maintenant. Merci beaucoup. On prend une question maintenant ici, à notre, avant d'aller à Goma. Merci.
Merci pour la parole. Saint-Germain-des-Prés pour le compte du drapeau blanc. La préoccupation que j'ai à l'adresse de France Marshall, voici comment je l'ai libellé. Qu'est-ce qui justifie votre silence ce matin sur la table d'explicage de la MONUSCO? Est-ce par manque de gravitation des informations autour du pilier développement, ou est-ce à cause de la signature du tant vanté accord de paix qui a vidé votre papier de son contenu? Qu'est-ce que vous répondez à cette question?
Je vous remercie de noter que ni l'humanitaire ni le développement aujourd'hui n'ont fait de contribution, alors qu'effectivement depuis quelque temps, et nous en sommes fiers, nous avons une conférence de presse One UN, unie dans l'action, pour vous montrer donc la complémentarité de nos actions. Donc on n'est pas muet parce qu'il y a un accord qui a été signé à Addis. Au contraire, évidemment, comme tout le monde, on se réjouit de cet accord et on espère qu'il pourra être mené à son terme. Maintenant, si vous voulez savoir plus en détail pourquoi je n'ai pas de contribution pour le développement, c'est tout simplement parce que actuellement la plupart des agences, des fonds et programmes qui travaillent pour le développement sont en train d'initier un nouveau cycle de programmation pour la période 2013-2017. Et tout simplement, on est en train de finaliser nos programmes, de définir quels seront nos axes d'intervention qui vont après être signés avec le ministère des Affaires étrangères, coopération, francophonie. Donc voilà, on est toujours là, on est solidaires et notre silence n'a rien de politique et ne doit absolument pas être interprété. Merci.
Merci. On va retourner maintenant à Goma pour les prochaines questions.
Merci. C'est Touvé Woundi de la RTNC Goma et Mediatour. Ma question première s'adresse au colonel Bass. Il y aurait eu arrestation d'un militaire ougandais à la frontière congolo-ougandaise au niveau de Kasindi. Ce militaire ougandais serait arrêté avec une importante somme d'argent et de munitions. Et il aurait été remis hier à l'UPDF. Que pense la MONUSCO de cette arrestation, s'il y a eu la présence de la MONUSCO à ce niveau-là? En parlant de Rutshuru, ce matin, avant d'entrer dans cette salle, il y aurait d'importants mouvements d'hommes de M23 vers la base de la MONUSCO à Rutshuru. Qu'en savez-vous? Est-ce que ce sont les hommes ou c'est le président Runiga lui-même qui se serait déplacé à la MONUSCO? Et si c'est Runiga lui-même, que fera la MONUSCO pour sa protection? Enfin, parlant de la brigade qui est attendue dans l'accord cadre, le colonel vient de dire qu'elle est différente, si j'ai bien saisi, de la force internationale neutre. Ces deux forces vont-elles travailler au même moment sur le même problème qui est celui du M23? Merci.
Merci. Donc, pour votre première question, je suis au regret de ne pouvoir y apporter une réponse parce que je ne suis pas au courant d'un sujet ougandais qui aurait été arrêté et remis en cours aux forces armées ougandaises. Je ne suis pas au courant. La deuxième préoccupation qui a trait au mouvement du M23 vers la base de la MONUSCO, c'est assez surprenant parce que jusqu'au moment où j'entrais dans cette salle, je ne suis pas au courant. Mais quant au mouvement du M23, nous les observons tous les jours, nous les suivons tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, en tout cas dans le cadre de nous permettre de prendre à temps les dispositions idoines pour protéger les populations civiles. Donc pour vos deux préoccupations, la première et la deuxième, je suis au regret de ne pouvoir satisfaire à votre requête. Maintenant, cette brigade d'intervention, il n'y a pas de force. Cette brigade d'intervention fera partie de la MONUSCO une fois qu'elle aura été déployée. Mais comme vous l'a dit M. Carlos aussi, c'est qu'il faut prendre le temps. Il y a tellement de modalités entre aujourd'hui l'initiative qui a été prise par la communauté internationale pour déployer une force qui aura pour objet, pour mission principale, de traquer les groupes armés et de les désarmer. Je pense qu'il faudra quand même que les gens attendent un peu parce que c'est juste une idée. Il y a tellement de choses à faire à l'intérieur, il y a tellement de réglages avant de voir cette force pouvoir être déployée. Évidemment, le souhait, c'est de l'avoir déployée le plus rapidement possible, mais je pense qu'il faudra quand même aussi faire preuve d'un peu de patience pour qu'on puisse vous donner des informations utiles.
On prend une autre question de Goma.
Oui. Joabanza Robert de la radio-télévision Graben. Et ça fait quelques jours que les éléments du M23 ont tiré sur les véhicules de la MONUSCO dans les territoires de Rutshuru. Quelle est votre réaction? Ma deuxième question, après la signature de l'accord 4, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est engagé de soutenir la stabilisation de la RDC à long terme. Et comme tout le monde le sait très bien, que le grand soutien reste la révision du mandat de la MONUSCO et l'envoi de la brigade internationale. Pensez-vous que la signature de cet accord va permettre l'opérationnalisation de la brigade d'intervention le plus rapidement possible?
Ben, je suis surpris de l'information que vous venez de me donner, comme quoi il y a quelques jours, le M23 aurait tiré sur les véhicules de la MONUSCO. Je ne suis pas au courant.
La deuxième question, c'est sur la brigade d'intervention. Comme on l'a dit à plusieurs fois pendant cette conférence de presse, il y aura une réunion du Conseil de sécurité la semaine prochaine. Pendant cette réunion, le secrétaire général va présenter un rapport spécial sur la République démocratique du Congo où il y aura des informations sur l'envoyé spécial, la brigade d'intervention. C'est seulement après, si ce rapport est approuvé par les membres du Conseil de sécurité. Il faut se rappeler qu'il y a 15 membres au Conseil de sécurité, donc il y aura des discussions sur les différents éléments de ce rapport, et c'est seulement après qu'ils ont ils sont mis d'accord sur le contenu de ce rapport que il faut passer à la phase suivante, que ce sera le déploiement de cette force d'intervention ici au Congo. Le délai, on ne sait pas, ce sera le plus vite possible, mais je ne peux pas vous donner en ce moment des éléments plus concrets sur ça, je ne sais pas. Ça, il faut attendre pour voir un mois, trois mois, quatre mois, je ne sais pas. Il faut attendre. Merci beaucoup. On passe à la dernière question parce que je crois qu'on a deux minutes. On va ici à la droite, ici à Kinshasa.
Roger Marley Lukunga, CMCTV et journal Le Paris. Vital Kamerhe, en échange avec la presse hier, a démontré la fragilité préméditée de cet accord d'Addis Abeba qui n'a pas placé les acteurs de l'opposition congolaise en bonne position quant à sa signature. Il a prié la MONUSCO de s'empresser à pallier à ces manquements notables. Allez-vous le faire, même en post-scriptum, PS, c'est-à-dire à la fin de la signature post-scriptum officielle?
Non, je crois que l'accord cadre a été déjà signé. Je ne pense pas qu'il y aura de modifications. Maintenant, c'est au pays qui l'ont signé de l'implémenter. Je ne pense pas. Il a été signé par le représentant du gouvernement, 11 pays, et il y a des organisations qui sont des garants. Je ne pense pas qu'on va revenir en arrière et impliquer d'autres gens dans cette signature. Je crois qu'on a 1 minute. Hein? 2 minutes. Seulement pour une dernière question. Ouais.
Merci Albert Omar, America TV. Je voudrais juste poser une petite question au porte-parole militaire pour savoir exactement ce qui s'est passé à Rutshuru, parce qu'on parle de deux faits. Ce qui s'est passé à Kiwanja et à Bunagana. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Kiwanja? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Bunagana? Quel est le bilan des victimes de ces atrocités?
Merci, mais je pense que cette question, j'ai déjà répondu. J'ai même pas attendu qu'il y ait une question. Je vous ai dit ce qui s'est passé à Kiwanja et je vous ai dit combien de morts il y avait, combien de blessés il y avait. Donc, je pense que cette question a déjà trouvé une réponse.
Ok, merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Merci à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous ont suivis en direct. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.